Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Un policier tué ce soir sur les Champs-Élysées à Paris, deux autres blessés, l'assaillant a été abattu. Aucune certitude pour le moment sur la nature de cette attaque qui a eu lieu il y a environ une heure. Les autorités demandent d'éviter le secteur des Champs-Élysées. On fait le point avec Ludovic Piétenu dans un instant. La campagne présidentielle, les 11 candidats du premier tour sont à la télévision ce soir pour s'exprimer à tour de rôle. Avec Stéphane Robert, nous verrons que le vote utile pourrait faire la différence dans ce scrutin. Et puis avec notre invité, le politiste Emiliano Grossman, nous reviendrons sur cette campagne atypique, hantée par le système qui servirait de boussole aux candidats. L'actualité à l'étranger reste dominée par le Venezuela. Nouvelle manifestation ce soir à Caracas et en province contre le président Maduro et nouveaux incidents. Les États-Unis dénoncent cette répression. Nous verrons cela avec Isabelle Labéry. C'est donc l'information de la soirée, cette fusillade ce soir sur les Champs-Élysées à Paris. Un policier a été tué, deux autres blessés et l'agresseur neutralisé selon la préfecture de police. Impossible de dire à ce stade s'il s'agit d'une attaque terroriste. Ludovic Piétenu, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Alors que sait-on précisément de cette fusillade?
On a vu sur les premières images un dispositif policier impressionnant, très conséquent avec des renforts qui arrivent sans discontinuer selon des témoins et des habitants sur place, du personnel de police pour évacuer les piétons, les touristes, les promeneurs du soir et enfin boucler cette plus belle avenue du monde à la circulation, fermer aussi les stations de métro alentour, notamment la station Franklin Roosevelt. On est là sur la partie basse de l'avenue, près de là où les faits se sont produits, donc on a vu aussi sur les premières images un hélicoptère en survol au-dessus de la zone. On sait de sources policières qu'un policier a été tué, deux autres sont blessés. Vous l'avez dit, la même source a qualifié cela probablement d'un acte terroriste, voilà les termes employés ce soir. Une autre source évoque néanmoins les possibles conséquences d'un braquage. Il a été question très vite d'un seul assaillant signalé comme abattu, avant que la police ne parle de deux auteurs impliqués dans ces coups de feu, confirmant donc la mort de l'un d'entre eux. Les individus auraient fait feu sur une voiture de police à l'arrêt à un feu rouge. L'un des deux auteurs est actuellement recherché, ce qui explique la présence en nombre des forces de l'ordre et l'hélicoptère en survol. On est symboliquement sur une avenue connue du monde entier, la chaîne CNN par exemple, aux États-Unis, transmet dans le monde entier des images depuis plus d'une demi-heure. On est aussi à quelques centaines de mètres du palais de l'Élysée. On est surtout à trois jours du premier tour de la présidentielle qu'on sait, par le biais de nos services de renseignement, être sous menace, être une cible, un moment de démocratie que certains veulent malmener.
Ludovic Piétenu, merci. Nous reviendrons bien sûr largement demain matin sur cette fusillade meurtrière aux Champs-Élysées, la campagne présidentielle justement. Et les sondages sont têtus. Depuis plusieurs jours, ils donnent invariablement quatre candidats à l'Élysée au coude à coude, avec un léger avantage à Emmanuel Macron qui semble progresser à nouveau devant Marine Le Pen qui est orientée à la baisse, juste derrière François Fillon et Jean-Luc Mélenchon, stable désormais après avoir gagné des points, surtout Jean-Luc Mélenchon. Face à cette incertitude sur les deux qualifiés du deuxième tour, les électeurs pourraient être tentés par le vote utile plutôt que par le vote d'adhésion. Stéphane Robert.
Ce premier tour de scrutin est en train de s'organiser en fonction de la très probable qualification de Marine Le Pen pour le second tour, que toutes les enquêtes d'opinion annoncent avec constance depuis bientôt deux ans. En fonction de ce postulat de départ, la question semble être de savoir qui affrontera la candidate du Front National pour l'accession à l'Élysée. À gauche, plane encore le spectre de la défaite de Lionel Jospin en 2002, coiffée sur le fil par le père de l'actuel candidat FN, Jean-Marie Le Pen. Dès lors, Benoît Hamon, le candidat socialiste, pourtant vainqueur de la primaire au mois de janvier, mais largement devancé dans les sondages, en fait les frais. Selon qu'ils sont plus ou moins progressistes ou sociodémocrates, les électeurs de gauche se partagent entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. C'est ce même réflexe à droite qui maintient François Fillon dans la course, malgré ses ennuis judiciaires. Non seulement il conserve un socle important d'électeurs qui ne l'ont jamais abandonné, mais on voit également, depuis deux semaines environ, une partie de la droite, plus centriste, qui avait déserté, revenir au bercail. La droite centriste qui, du coup, se partage, elle aussi, dans un vote utile, soit en faveur de Macron, soit en faveur de Fillon. Le résultat, c'est qu'on n'aura jamais eu autant d'électeurs qui s'apprêtent à privilégier la stratégie à l'adhésion, et parallèlement, jamais le résultat d'un premier tour de scrutin n'aura été aussi incertain.
Stéphane Robert, merci. Ce soir, les 11 candidats du premier tour passent leur dernier grand oral télévisé sur France 2. 11 interviews successives avant la conclusion qui rassemblera tout le monde sur le plateau. On va écouter l'une des deux femmes du scrutin avec Marine Le Pen, Nathalie Arthaud, la candidate de Lutte ouvrière. Nathalie Arthaud qui propose notamment de nationaliser les banques.
Oui, Bien sûr. D'abord, je pense que les banques, elles ont quand même fait la preuve de leur irresponsabilité. La crise de 2008, dans laquelle d'ailleurs on continue de s'enfoncer, eh bien, elle en a fait la preuve. Voilà, ils ne font plus ce à quoi ils devraient servir en théorie, c'est-à-dire permettre à l'économie de fonctionner. Ils ont transformé les salles de banque en salles de casino. C'est ça la réalité. Donc, bien sûr qu'il faudrait que ces banques, elles fonctionnent pour l'ensemble de l'économie. Mais vous savez, je voudrais quand même juste dire une chose, c'est que là, les professions de foi arrivent dans les boîtes aux lettres. Mmh. Et tout le monde pourra lire le programme que je défends dans cette campagne et pourront voir que ce programme, il part des besoins, des intérêts vitaux, élémentaires des travailleurs. Et le premier besoin et le premier intérêt, c'est d'avoir un emploi.
Nathalie Arthaud, ce soir sur France 2, toujours au chapitre de la campagne, on retiendra le ralliement de Dominique de Villepin à Emmanuel Macron. L'ancien Premier ministre de Jacques Chirac l'annonce demain dans une interview au journal Le Parisien. Dominique de Villepin salue chez Emmanuel Macron, je cite, une nouvelle voix, celle du rassemblement. Et puis Philippe Poutou termine là sa dernière campagne présidentielle. Le candidat du NPA ne se représentera pas en 2022. Il s'y est engagé ce matin. Pour évoquer cette campagne présidentielle, inédite par son suspense, un invité ce soir, Emiliano Grossman, politiste au Centre d'études européennes de Sciences Po à Paris. Bonsoir.
Bonsoir.
Emiliano Grossman, on a beaucoup parlé du système dans cette campagne, souvent pour le dénoncer, rarement pour le défendre. C'est une spécificité de cette campagne présidentielle ?
Bah effectivement, de par le fait que le sortant ne se représente pas et que le sortant en plus a un bilan qui est remis en cause y compris par les gens de son propre camp, il est vrai que finalement on n'a jamais assisté, me semble-t-il, à une campagne où tout le monde tenait tant à se démarquer de tous les bilans précédents. Donc là, c'est aussi peut-être le fait qu'on sort d'une période de crise et que du coup, y compris à droite, on n'a pas trop envie de se remémorer la dernière présidence de droite. Et donc, effectivement, on se retrouve dans un cas de figure un peu inouï où tout le monde est un candidat de rupture. Après, ce discours de la rupture n'est évidemment pas nouveau. En 2007, et Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal aussi se voyaient comme des candidats de rupture avec un certain nombre de contradictions parce que, pour l'essentiel, c'est quand même des personnages qui ont peuplé la vie politique française depuis 20, 30, parfois 40 ans.
Oui, parce qu'en plus, le système, on a bien du mal à comprendre ce que c'est précisément. Chacun met un peu ce qu'il veut dans ce terme de système.
Absolument, c'est précisément l'avantage de ce terme. Il ne veut pas dire grand-chose. Au moins trois des quatre candidats qui mènent la danse pour le moment sont quand même des gens qui vivent de la politique et dans le monde politique depuis fort longtemps. Donc c'est à tout point de vue des candidats du système. Donc le seul nouveau venu serait Emmanuel Macron, qui n'est pas forcément celui qui a le discours le plus anti-système.
Emiliano Grossman, selon vous, le sentiment de rejet de la classe politique augmente aujourd'hui en France ?
Oui, il augmente, ça c'est certain. D'ailleurs, finalement, cette élection en témoigne aussi. C'est-à-dire que d'une part, on voit une répétition dans la déception avec les sortants, donc le dégagisme, comme dit Jean-Luc Mélenchon. Donc ça, c'est un phénomène qui se renforce avec le temps, mais qui est ancien aussi. Ça commence au moins depuis la période Giscard, mais c'est vrai que François Hollande nous a surpris, disons, avec des taux de popularité qu'on croyait pas possibles. C'est un mouvement plus général dans les démocraties occidentales, me semble-t-il, mais c'est vrai qu'il est peut-être un tout petit peu plus fort en France qu'ailleurs. Voyons Outre-Rhin, par exemple, où Angela Merkel arrive quand même à des taux de popularité tout à fait honorables, même avec l'usure, disons, de 10 ans de pouvoir, et même si elle est aujourd'hui un peu plus contestée que dans les élections précédentes. Mais c'est certain que le fait qu'en France, les présidents sortants n'arrivent plus à se faire réélire et que là, pour la première fois, le sortant ne se représente même pas, est clairement très, très significatif.
Ça veut dire qu'il y a un problème de popularité générale des personnalités politiques ?
Il y a en tout cas un problème pour recréer la connexion entre les représentants et leurs électeurs. Moi, j'ai écrit un peu là-dessus. Je pense que ça a beaucoup à voir avec le système politique français et la manière dont il finalement cristallise tout autour de la campagne présidentielle qui crée beaucoup, beaucoup d'attentes. Et ces attentes, très souvent, sont très déçues parce que les gens ne retiennent que les promesses les plus spectaculaires mais qui sont nécessairement aussi les plus difficiles à tenir. Et cette campagne ne va pas faire exception de ce point de vue-là. On a entendu un tas de promesses très 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 ambitieuse, de renégociation de traités, de changement radical, je sais pas, par rapport à la fonction publique, par rapport à la réforme de l'État. Et on sait pertinemment que beaucoup de ces réformes seront très difficiles à mettre en œuvre, d'autant plus que le législatif, il sera très très difficile de trouver une majorité législative en juin. Donc la déception que produit ce type de discours produit beaucoup d'attentes qui seront ensuite déçues. Et cette déception, évidemment, crée un scepticisme futur, une méfiance future envers des futurs candidats. Donc il y a un coût à moyen et long terme que les sortants payent régulièrement depuis l'époque Mitterrand, en tout cas, où chaque président sortant a perdu la prochaine élection nationale, donc depuis les années 80.
Ça veut dire que l'élection présidentielle aspire beaucoup trop le débat politique ?
Ça c'est certain, et ça se voit aussi, par exemple, dans les taux de participation aux élections législatives. Tant que les deux ne coïncidaient pas toujours, donc la dernière fois que les deux n'ont pas coïncidé, c'était en 1997, il y avait un taux de participation assez élevé aux élections législatives de 97. Depuis, les taux de participation aux élections législatives baissent régulièrement. On l'a pas beaucoup commenté, mais au deuxième tour de 2012, il y avait un taux d'abstention de plus de 40% dans mon souvenir. Donc il faudrait vérifier, mais c'est vrai que c'est même inquiétant, parce que finalement, dans le système de la Ve République, la majorité de gouvernement est déterminée au Parlement ou les élections législatives. Or, tout le monde se concentre uniquement sur l'élection présidentielle. Or, les présidents tout seuls ne peuvent pas gouverner. Et l'expérience montre que même avec une petite majorité, ils sont incapables de mettre en œuvre leurs mesures les plus ambitieuses.
Sauf que là, cette fois, on aura peut-être des législatives qui pourraient contredire le résultat de la présidentielle.
Exactement. Donc on pourrait peut-être, pour la première fois depuis la réforme constitutionnelle de 2000 qui a créé le mandat présidentiel de 5 ans, se retrouver dans une situation de fait de cohabitation. Or, cette réforme était précisément destinée à rendre impossible la cohabitation. Donc ce sera un terrain entièrement nouveau avec une très grosse incertitude et il va certainement y avoir beaucoup de débats sur l'avenir des institutions politiques après les élections de juin, à mon avis.
Emiliano Grossman, politista Sciences Po Paris, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Au Venezuela, de nouveaux affrontements ont éclaté ce soir entre les opposants au président Maduro et les forces de l'ordre. C'est à Caracas, la capitale, que la situation est la plus tendue. L'opposition vénézuélienne réclame le départ de l'héritier de Hugo Chavez. Le pouvoir, lui, a choisi la manière forte pour réprimer les manifestations qui ont déjà fait 8 morts. Une crise qui creuse un peu plus le fossé entre le Venezuela et les États-Unis. Washington qui multiplie les critiques contre Maduro. Isabelle Labéry.
Plusieurs fois ces dernières semaines, les États-Unis ont tenté le coup de semonce contre Caracas. Mais les déclarations de Washington ne font que renforcer la détermination du président vénézuélien qui accuse son meilleur ennemi de soutenir un coup d'État. Hier, c'est le secrétaire d'État américain Rex Tillerson qui s'est dit préoccupé par le fait que le gouvernement Maduro n'autorisait pas l'opposition à faire entendre sa voix. La réponse n'a pas tardé, que les États-Unis se mêlent de ce qui les regarde. Dans le même temps, sans préavis, les autorités vénézuéliennes ont saisi l'usine de General Motors dans le nord du pays. Des véhicules ont été confisqués. La filiale du constructeur américain qui emploie plus de 2600 personnes a dû arrêter sa production. En toile de fond, il y a bien sûr la rivalité de 20 ans entre les deux pays et un épisode plus récent, les sanctions imposées par le Trésor américain à l'un des dirigeants les plus influents du parti au pouvoir. Pour trafic de drogue, un affront que le président Maduro n'a toujours pas digéré.
Isabelle Labéry, seul rescapé des printemps arabes, la Tunisie est en proie depuis plusieurs semaines à une série de mouvements sociaux. Ce matin, des milliers de personnes ont manifesté au Kef, une ville du nord-ouest du pays, pour demander le développement des régions marginalisées. La semaine dernière, c'est dans le sud tunisien, à Tataouine, que des centaines de manifestants réclamaient leur droit à l'emploi. Plus de 6 ans après la révolution, ces Tunisiens dénoncent une fracture sociale et régionale qui s'est aggravée. Justine Fontaine nous appelle de Tunis.
Cette fracture se manifeste de la manière suivante. Près de Tunis et dans les régions côtières du nord-est, on trouve beaucoup d'industries, des infrastructures et des services publics développés, de grandes universités et des taux de chômage plus faibles. C'est l'héritage d'un pays ultra-centralisé sous Ben Ali, sous Bourguiba ou encore sous la colonisation française. L'autre visage de la Tunisie, on le trouve dans les régions de l'intérieur et de l'extrême sud du pays, au Kef ou à Tataouine, mais aussi à Kairouan ou à Kasserine et Sidi Bouzid. Dans ces régions, les hôpitaux sont sous-équipés, les infrastructures et les services publics sont défaillants, même l'accès à l'eau est difficile et le chômage est souvent bien supérieur à la moyenne nationale, c'est-à-dire au-dessus de 15%. Une situation que 6 ans de démocratie n'ont pas réussi à changer, sans compter que dans le même temps, le pouvoir d'achat a baissé de près de 40% entre 2010 et 2015. Comme un symbole de cette fracture régionale, les protestations sociales ont commencé au Kef à cause de rumeurs de délocalisation d'une usine vers une ville côtière du Nord-Est. Les revendications se sont ensuite étendues au développement régional pour aboutir à une grande manifestation et à une grève générale au Kef aujourd'hui. Dans le cortège, certains slogans sont les mêmes qu'en 2011. Travail, liberté, dignité nationale. Il y a une semaine, la grève avait lieu à Tataouine et des centaines de personnes marchaient au cri de « l'emploi est un droit ».
Justine Fontaine à Tunis. La sécheresse qui règne actuellement sur la France commence à poser de sérieux problèmes pour l'agriculture qui manque d'eau. Il y a aussi les premiers feux de forêt. Plus de 500 hectares de pinèdes ont été ravagés par des incendies aujourd'hui en Gironde. Demain, le temps restera sec et le plus souvent ensoleillé avec des passages nuageux au nord. Les températures maximales 14 à 19 degrés en général, jusqu'à 22 degrés en Aquitaine et en Provence. Je vous rappelle la principale information de la soirée, cette fusillade aux Champs-Élysées. Tout à l'heure à Paris, un policier a été tué, deux autres blessés. L'assaillant a été abattu, de sources policières. On évoquait tout à l'heure deux pistes pour cette fusillade, soit un attentat terroriste, soit un braquage qui aurait mal tourné. En tout cas, le Premier ministre Bernard Cazeneuve a rejoint tout à l'heure François Hollande à l'Élysée pour faire le point sur cette fusillade, sur laquelle nous reviendrons bien sûr largement demain matin sur France Culture. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec François-Charles Domergue.